Radio Ndekeluga, le magazine parlementaire.
Bonjour et bon week-end à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine parlementaire. Cette semaine, nous sommes à la 26e réalisation. Nous l'avons consacrée au rapport de la commission équipement et communication de l'Assemblée nationale sur les travaux de réhabilitation de l'aéroport international Bangui-Mpoko. Les activités régionales vont nous conduire respectivement à Zemio dans le Mbomou et à Berbérati dans la Mambérékadé. Les élus de la nation de ces localités mettront en exergue les problèmes que rencontrent leurs électeurs. La convention sur les armes bactériologiques ratifiées par la représentation nationale sera aussi de la partie. Le débat parlementaire est notre lexique de la semaine avec l'honorable Laurent Gonbaba. À la cabine technique, nous avons Guy Rémy Yamenindi. Au micro, nous sommes deux.
Jean-Yves Bagali.
Et Igor Jeskin Senapay. Jean-Eudes, bonjour.
Bonjour, Igor Jeskin-Senapay, bonjour à tous nos auditeurs.
Les députés centrafricains ont enfin rendu public leur rapport sur les travaux de réhabilitation de l'aéroport international Bangui-Mpoko.
Oui, la publication de ce rapport a eu lieu après une descente organisée en juin dernier par la commission équipement et communication sur le site à Bangui.
Le but de cette mission était de palper du doigt les raisons de l'écroulement du mur de la nouvelle clôture de cet aéroport. Benjamin Kaigama, vice-président de la commission équipement et communication.
Notre conclusion sur cette mission parlementaire, nous avons demandé au bureau de l'Assemblée nationale d'interpeller le ministre des Transports et de l'Aviation civile et qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire mixte avec la commission Finances pour tirer au clair ce qui se trouve dans ce département. Au terme de cette mission parlementaire d'information et d'enquête sur le projet de rénovation des installations de l'aéroport international Bangui-Mpoko effectué du 2 au 5 juin 2018 par la commission équipement et communication, eu égard d'une part aux nombreux dysfonctionnements constatés sur les lieux et d'autre part aux informations reçues faisant état non seulement de détournement de données publiques, ces frais, c'est sur les taxes aéroportuaires. C'est à hauteur de 660 millions que la société Zodiac avait acheté de matériel informatique qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Pour l'utiliser, il fallait reconstruire d'abord l'aéroport Bangui-Mpoko. Et comme le projet n'est pas encore exécutés, ces matériels ont été achetés et stockés. À quoi bon de prendre de telles sommes de l'argent pour acheter des matériels et stocker, sachant que ça ne va pas être utile? Ce n'était pas le moment. Donc c'est ce qu'on déplore. Mais aussi des pratiques peu orthodoxes tendant à expliquer la persistance de la vétusté des installations aéroportuaires et la lenteur dans l'exécution des travaux par les deux entreprises contractantes et l'écroulement des murs les 23 et 26 février 2018.
Igor, dans leurs recommandations, les élus de la nation demandent au gouvernement la mise en place d'une commission d'enquête afin d'établir la responsabilité des uns et des autres dans l'échec de ce projet de réhabilitation de l'aéroport Bangui-Mpoko, Benjamin Kaigama.
Les honorables députés de la commission équipement et communication, après avoir débattu, recommandent au bureau de l'Assemblée nationale l'interpellation du ministre en charge des transports et de l'aviation civile, suivie de la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête par la plénière chargée d'approfondir le travail en vue d'établir la responsabilité pénale des uns et des autres dans ce système. Par ailleurs, la commission équipement et communication suggère l'auto-saisine de la commission économie, plan et finances pour violation de la loi des finances 2018 en interpellant le ministre des Transports sur la motivation et sur l'utilisation des fonds de la taxe de sûreté aéroportuaire avec le programme d'emploi des mois de janvier à mars 2018. Voilà la conclusion de notre mission. Si toutes ces dispositions ne sont pas mises en place, le danger est que notre aéroport risquerait un jour d'être déclassé par la SEGNA. Donc c'est ça le danger que court notre pays. Les enjeux des relations avec les autres États. Imaginez-vous, la construction de l'aéroport, c'est un don de l'AFD. Et l'AFD suit de près l'utilisation de ces fonds-là. Mais si le bailleur constate que ces fonds ne sont pas utilisés à bon escient, le danger est qu'on risque de perdre des financements ultérieurs. Donc les bailleurs de fonds risquent de ne plus nous venir en aide. Voilà le danger que court notre pays.
Radio Ndekeluga, le MAG parlementaire.
C'était Benjamin Kaigama, vice-président de la commission équipement et communication.
Mettons maintenant un cap sur nos villes de province.
Effectivement, Jean-Eudes, notre première destination est la sous-préfecture de Zemio dans le Oumbomo.
Le député Martin Dalou Amboli revient sur les mots qui minent encore sa circonscription en proie aux violences depuis l'éclatement de la crise dans la région.
C'est depuis le 28 juin 2017 que la crise a commencé à Zemio et la situation est chaotique aujourd'hui. Je veux dire que Zemio n'a pas encore repris. La majorité de la population se trouve encore en brousse. Donc, de l'autre côté, dans un territoire voisin au Congo démocratique, donc les gens vivent en brousse. Il n'y a même pas de village dans le centre. Donc, les gens sont carrément abandonnés à eux-mêmes. La situation humanitaire est vraiment bizarre. Les enfants, les femmes, les vieux, et beaucoup de gens qui meurent chaque jour. Il n'y a pas d'hôpital dans la zone où ils se trouvent. Et vous savez que c'est à l'étranger pour les humanitaires. Afin qu'ils traversent, ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Alors, le HR n'a pas pu prendre charge des gens parce qu'ils ne sont pas dans un centre, ils sont très loin d'un centre du Congo démocratique. Ils sont dans la brousse, même tout proche des Zemio, à 5 km.
Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces problèmes?
Bon, à l'origine, c'est un malentendu. C'est la situation de Bangassou qui a dégénéré jusqu'à Zemio. Donc, vraiment, c'est déplorable. Donc, l'intoxication est venue de Bangassou.
Vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour que ce problème soit résolu et que ça a perdu?
Bien avant même la crise, je me suis battu pour la cohésion, je me suis battu pour un règlement à l'amiable. Vous savez que c'est un truc qui sont venus de part et d'autre et qui ont commencé à avoir des petites difficultés sur des motos, sur des situations comme ça, des petites provocations afin de créer la tension. Et moi, j'ai seulement parlé. Les gens étaient décidés à s'affronter et voilà ce que cela a donné. J'ai pas été écouté. Aujourd'hui, il y a un semblant d'État. Moi, j'ai dit que c'est un semblant d'État parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas de sécurité. On a envoyé des autorités administratives qui sont là et qui ne peuvent rien faire. Donc, clairement parlant, il n'y a vraiment pas de vie. Toutes les communautés m'appellent. La communauté musulmane, autochtone, m'appelle, et la communauté chrétienne m'appelle de l'autre côté du Mbomou, ils m'appellent et ils me demandent est-ce que les FACA peuvent arriver parce qu'ils ont besoin d'une force légale qui peut vraiment équilibrer les choses. Sans la force légale, rien ne peut se faire et c'est un peu bizarre. Je lance souvent l'appel au gouvernement pour qu'il puisse penser à la ville de Zemio, à la sous-préfecture de Zemio qui est très peuplée dans le Mbomou. Et c'est un peu bizarre que les militaires sont déployés à Obo et à Bangassou et Zemio est laissé comme ça. Il faut une présence de force là. Ce qui va donner confiance aux gens et qui peuvent revenir.
Du côté des Berbérati, 4 dans la Mambéré 4DI, les élus de la nation de cette région ont participé en juin dernier aux deux ateliers sur la paix, la cohésion sociale et le développement de cette préfecture.
André Nalke de Rogo était aussi participant.
Ces recommandations ont été remontées au niveau du gouvernement et dans les entités que je viens de citer. Ce qu'on déplore, c'est un peu l'attentisme du gouvernement quant à la mise en place ou la mise en œuvre de ces recommandations, puisqu'il y a une semaine, vous comme moi avions été informés de la recrudescence du groupe armé appelé Siriri dans la sous-préfecture de Amadagaza. Et donc, c'est le lieu pour moi, au travers de cette restitution, d'appeler l'attention du gouvernement à travers le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité pour que ces recommandations de type stratégique et opérationnel puissent connaître un début de mise en œuvre. Vous savez que dans les zones en proie à ce groupe armé dénommé Siriri, il y a la commune de Wakanga qui fait partie de ma circonscription, puisque ma circonscription a deux communes. La première, c'est Basbaturi, et la seconde, c'est Wakanga sur la route de Gamboula. Donc, j'en ai profité pour conférer avec ma population pour qu'on puisse aider, informer les FACA, la gendarmerie et les autorités déconcentrées sur d'éventuels mouvement de cela afin que la population continue à être protégée. Deuxièmement, pour ceux qui étaient déplacés à Berbérati, j'ai pris langue avec les ONG, notamment Plan, PAM, Première Urgence et HCR pour qu'on leur vienne en aide parce que pour beaucoup, ils sont dans les familles et il y a des problèmes non seulement de prise en charge mais de promiscuité qui se posent. Donc voilà ce qui a été fait. Je viens d'être informé que les ONG ont commencé à apprêter les réponses. J'espère que d'ici là, avec le retour du calme dans la commune, il y aura un retour sur place, mais il faudrait que ce retour soit accompagné par ces ONG et par les autorités déconcentrées de l'État.
La convention sur les armes bactériologiques afin ratifiée par la représentation nationale. Cette loi permet à la RCA de rejoindre les autres pays du monde qui ont déjà signé ce texte. Les Centrafricains se sont aussi préoccupés de cette loi. Jean-Eudes, vous les avez rencontrés.
Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cette loi qui a été votée permettra d'éviter de nombreuses maladies. Oui, moi je souhaite tout simplement son application.
C'est une bonne chose.
C'est aussi une bonne chose. Quand les députés votent ces lois-là, c'est une bonne chose. Mais il faut veiller sur ces lois-là. Quand on vote une loi, il faut veiller sur ça. Mais si on vote et il n'y a pas vigilance sur ces lois-là, ça ne vaut même plus la peine de voter les lois à tout moment, et puis répéter. Ça n'a même pas de sens.
Si, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'il y ait une mise en application. Les gens doivent appliquer cette loi. Mais si les gens n'appliquent pas la loi, le pays va rester comme ça. Et au fur et à mesure, le pays demeure dans le chaos. Donc je dirais que c'est une mauvaise chose et les gens doivent appliquer vraiment cette loi.
Alors pour moi, c'est une bonne chose, mais c'est mieux de l'appliquer.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Igor, cette fois-ci, nous allons revenir vers l'honorable Émilie Béatrice Epaille de la Commission Affaires étrangères qui nous donne plus de détails sur cette loi.
En fait, ce projet de loi vient à point nommé. Le projet de loi concerne l'autorisation à la ratification de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction. On peut résumer à l'interdiction des armes biologiques. Donc, notre pays a signé la convention depuis le 10 avril 1972. Et jusqu'à présent, nous ne l'avons pas ratifiée. Parce qu'une convention, si elle doit, elle peut entrer en vigueur quand il y a un nombre d'États qui ont ratifié, mais chaque État doit la ratifier pour s'approprier de la convention. Donc notre pays ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le gouvernement nous a envoyé le projet de loi et c'est ça qui a fait l'objet du débat d'aujourd'hui, qui a abouti au vote de la loi. Aujourd'hui, la peur dans le monde, c'est que les États en conflit ne puissent pas utiliser ces types d'armes. Il y a des pays qui détiennent ces armes, comme vous l'avez entendu, c'est facile de les fabriquer. Nous avons fait appel à nos scientifiques, nous avons fait appel aux doyens de la fac de sciences et au chef de département de la chimie. On a fait appel au ministre de la Santé, qui est un médecin, qui est un scientifique. Nous avons fait appel aussi au directeur scientifique de l'Institut Pasteur et nous avons eu beaucoup d'éléments qui montrent que c'est facile de fabriquer des armes chimiques, même des armes biologiques. Et aussi, c'est facile qu'on importe des maladies qui tuent en masse, qui tuent à grande échelle, comme une arme biologique. Donc, aujourd'hui, notre intérêt, c'est après la ratification, qu'on mette en œuvre la convention et qu'on prenne des lois au niveau national pour inclure les dispositions de cette convention pour nous protéger avec.
Merci de rester fidèle à Radio Ndekeluka sur les 100.9 FM depuis Bangui, capitale de la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'un débat parlementaire ? La réponse avec l'honorable Laurent Gonbaba, président de la commission loi.
Le débat parlementaire, ce qui permet aux parlementaires et donc aux députés de mener le débat autour d'un projet de loi ou d'une proposition de loi pour l'examiner et l'adopter. Vous savez, lorsque un projet de loi vient du gouvernement ou une proposition de loi est déposée par un député, le bureau de l'Assemblée nationale déclare la recevabilité si le projet est du domaine de la loi. Une fois déclarée la recevabilité de la loi, le bureau transmet donc le projet à la commission compétente. Et c'est la commission compétente qui examine au fond, n'est-ce pas, ce projet de loi. Après avoir examiné au fond, la commission fait un rapport. Et donc, maintenant, la commission soumet ce rapport à la plénière. Et donc, on passe à la procédure du débat parlementaire. Le débat est ouvert et présidé par le président de l'Assemblée nationale ou en cas d'empêchement par l'un de ses vice-présidents. Et lorsqu'il ouvre la séance, il annonce l'ordre du jour du débat. Par exemple, l'ordre du jour appelle l'examen de tel projet de loi et donne donc l'intitulé du projet de loi. Avant toute chose, il va donner la parole au rapporteur de la commission compétente qui a examiné le projet de loi. Et lorsque le rapporteur prend la parole, il donne lecture du rapport des travaux en commission. Après avoir donné lecture des travaux, du rapport des travaux de la commission, le président donne la parole au ministre qui a initié le projet de loi, ou si c'est un député, il aura la parole pour donner ses impressions sur le rapport qui a été présenté. Est-ce que le rapport est conforme aux auditions qui ont été faites? Est-ce que lorsque le ministre a été auditionné, est-ce qu'il se reconnaît dans le rapport qui est présenté? Et donc, il donne ses impressions sur le rapport qui est présenté. Ce n'est qu'après que maintenant le débat proprement dit est ouvert. Et quand le débat est ouvert, dans un premier temps, la parole est donnée au groupe parlementaire. Vous savez, pour intervenir, il y a une discipline qui s'impose. Les députés doivent s'inscrire une heure avant l'ouverture de séance, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas improviser. C'est pendant au cours du débat qu'ils doivent s'inscrire. Non, cela est interdit. Et donc, ceux qui se sont inscrits, il y a deux groupes d'inscrits. Il y a le groupe des groupes parlementaires et il y a le groupe des individuels.
Ainsi s'achève cette rencontre hebdomadaire consacrée aux activités des élus de la nation. Nous disons merci à ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de Igor Jeskin Sénapaï E.
Jean-Hugues Bagali.
À la gestion numérique, nous avons Guy Rémi Yamenendi. Nous remercions aussi l'équipe de la communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.